Europe 1.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu, c'est autre chose. C'est pour parler, certainement, c'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Aujourd'hui, de l'aventure avec un écrivain voyageur, nous allons descendre la Seine en canot. Et ensuite, nous partons danser chez Marie-Claude Pietragala, enfin dans ses livres surtout. Et puis à la fin, je rassemble tout le monde pour la bande dessinée, le roman jeunesse, avec les chroniqueurs de l'émission. Mais d'abord, c'est l'invité, La Voix est libre. C'est parti, premier chapitre.
Et cette semaine, dans La Voix est libre, nous recevons l'écrivain Philibert Hume qui publie Roman Fleuve aux Équateurs. Quand je dis écrivain, non. L'aventurier Philibert Hume, le risque tout, la tête brûlée. Figurez-vous qu'il a entrepris un voyage assez extraordinaire et très périlleux. Il a descendu la Seine de Paris jusqu'au Havre à bord d'un canoë avec deux acolytes. D'ailleurs, c'est un roman, mais c'est aussi une aventure qui a été vécue. Et il y a cet avertissement au début du livre que je vous lis, pour que vous soyez vous aussi avertis. Ce périple, trois jeunes gens l'ont réellement entrepris, au mépris du danger, au péril de leur vie, et malgré les supplications de leurs familles respectives. Ils l'ont fait pour le rayonnement de la France, le progrès de la science, et aussi un peu pour passer le temps. Et cette note se termine par cette mise en garde. Cette aventure a été réalisée par des professionnels. N'essayez pas de la reproduire chez vous. Bonjour Philibert Hume.
Bonjour Nicolas Carreau.
Vous avez donc réellement entrepris cette aventure folle. Pourquoi, comment ça a démarré ?
Je le dis un peu dans cette préface, ce préambule, pour me désennuyer un peu et puis pour faire avancer la science. C'est l'histoire de trois garçons qui s'ennuient un peu à Paris au cœur du mois d'août et qui voient couler sous leurs pieds, à leurs pieds, la Seine et qui décident de voir où ça va, où ça mène. Et donc, ils s'engagent effectivement dans ce périple un peu loufoque. Ils se procurent un canot de 1987 qui aurait appartenu à Véronique Sanson.
Oui, ils le trouvent sur le Bon Coin et le type qui leur vend leur dit éventuellement peut-être il aurait appartenu à Véronique Sanson, je vous le dis quoi.
C'est
et ça compte dans la négociation du prix.
Moi, c'est un argument de vente indéniable, me semble-t-il, quand on vous apprend que ce canoë aurait appartenu. Il a pris toutes les précautions du conditionnel, ce vendeur, mais nous on a interprété ça comme de l'indicatif.
Et alors ensuite vous vous préparez encore un peu plus. Un canoë, c'est un peu incongru pour descendre la Seine. C'est tout en long, vous êtes trois, ça va pas être pratique. Et puis surtout, il n'y a pas, à part les rames, les pagaies, il n'y a pas tellement de moyens de propulsion. Alors vous décidez d'installer un gréement, carrément, c'est-à-dire un mât et puis une voile. Vous nous racontez comment vous avez bricolé ça ?
Oui, on est trois copains atteints par le syndrome Tom Sawyer. Et effectivement, quand on s'engage dans cette aventure, on rêve un peu plus haut que nous. Il nous faut une voile, il nous faut un mât sur ce canoë. Alors on se rend dans un magasin de bricolage bien connu et on se procure une tringle à rideaux qui fait office de mât. On la rive à la coque du navire au moyen de colliers de serrage. Et un vieux rideau de douche nous sert de voile et vogue la galère.
Faut quand même avoir que ça à foutre, quoi. Parce
mais
que
voyons.
Vous partez, vous descendez la Seine, vous savez pas combien de temps ça va durer. Faut être libre, c'est ça ce que je voulais vous dire.
Oui, faut être libre et le mois d'août permet cette liberté. Voilà, on nous enlève la laisse le temps d'un mois d'août. Et effectivement, moi je conçois l'aventure comme une. Je la conçois toujours au coin de la rue. C'est-à-dire que pour moi, l'aventure, elle est au pied de chez soi. Il suffit de la ramasser, de prendre le temps de la cueillir. Et là, c'est ce qu'on a fait de manière un peu ironique, bien sûr, parce que ce livre, il est assez espiègle.
Et d'ailleurs, on peut le dire tout de suite, c'est une sorte de hommage ou de remake de Trois hommes dans un bateau, un roman culte de Jérôme K. Jérôme, qu'on a complètement oublié en France aujourd'hui, il faut bien l'admettre. C'est
oui, alors qu'il a eu un succès fou, ce livre donc, qui est écrit à la toute fin du 19e, il a eu un succès fou en Angleterre notamment, au point que l'éditeur se demandait, mais il disait j'en vends tellement, mais qu'en font les gens? Il se demandait si les gens ne mangeaient pas ce livre-là. Trois hommes dans un bateau, effectivement, Three Men in a Boat, Quel accent. Et voilà l'histoire de trois gentlemen qui remontent la Tamise et qui sont trois jeunes gens taillés pour tout sauf pour l'aventure. Et c'est évidemment un hommage. Nous n'avons pas remonté la Tamise, mais descendu la Seine.
Mais sauf que eux sont vraiment complètement idiots, quoi.
Mais on n'est pas
loin. Vous êtes plus sympathiques qu'idiots.
Oui, disons qu'on a plus d'esprit que de muscles. Voilà, c'est le fameux le muscle et la plume. C'est plutôt le muscle ou la plume. Et quand même dans le choix de mes coéquipiers, puisque je suis le capitaine, hein, je tiens à le dire, de cette expédition, dans le choix de mes coéquipiers, j'ai choisi des amis fidèles, mais surtout des gens drôles, romanesques, de sorte que je n'avais pas grand chose à faire pour en faire des personnages.
Et d'ailleurs, vous êtes malin pour recruter, vous jouez ça comme un pirate dans une taverne, quoi. Parce qu'il faut les convaincre aussi. Donc il y en a un, Samuel Adrian, qui est partant tout de suite. Mais le troisième, lui, il faut ruser un peu pour l'embarquer.
Simplement, il faut lui offrir à boire. Et puis au premier boc, il trouve l'idée assez bonne. Et puis au deuxième boc, il est partant. Et au troisième, on tape dans la main.
Mais justement, vous parlez de vos coéquipiers qui... Bon, je rappelle que vous l'avez vraiment fait, hein, on est d'accord. Mm-hmm. Et vos coéquipiers, donc, étaient là. Et il y en a un des deux, au moins, qui est écrivain. Alors, qui décide que ça deviendra un roman ?
Alors, il n'est pas tout à fait écrivain, il est universitaire. Mais effectivement, il écrit, et il écrit d'ailleurs remarquablement bien. On ne s'est pas tellement posé cette question. Je crois d'ailleurs qu'il aurait pu écrire son livre, ça ne m'aurait pas choqué. Enfin, ce qu'il y a dans l'écriture, c'est qu'un voyage, on peut le raconter de mille et une façons. Moi, il m'est arrivé de voyager avec mon ami Pierre Adrian, un autre aventurier.
Qui est le frère d'un des coéquipiers.
Exactement, sous toute cette petite bande. Et avec Pierre, on a éprouvé ça, le fait de voyager ensemble, côte à côte, deux copains d'enfance, dans une même ville, vivant les mêmes événements, on ne retenait pas les mêmes choses. Mmh. C'est assez curieux comme expérience. Mais non, je crois que François Vaquet, pour ne pas le nommer, aurait pu écrire son livre, et il l'écrira peut-être d'ailleurs, ça ne pose aucun problème.
Mais d'ailleurs, j'y pense, en vous écoutant, ça ferait un super coup, ça, d'écrire le même voyage... Un livre sur le même voyage, mais qui donnerait deux livres complètement différents.
Mais vous en avez
déjà été fait.
Vous en avez de bonnes idées. Oui. Alors, je tiens à rappeler le fait qu'ayant écrit cette aventure, ayant raconté nos exploits fous, à la fin, je l'ai fait lire justement à ses coéquipiers et à ce fameux François Vaquet qui m'a regardé, qui m'a dit « Mais tu te moques du monde ? Ça ne s'est pas passé du tout comme ça. » Et il a exigé un droit de réponse, ce que je lui ai accordé.
Oui.
Et donc le livre s'achève par un droit de réponse. L'un des personnages prend la parole et dit je salue bien l'auteur, mais cher lecteur, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. » Et il remet les pendules à son heure.
Mais alors, quand vous partez pour cette aventure, est-ce que vous avez déjà l'idée d'écrire un livre dessus ? Et dans ce cas-là, est-ce que vous forcez un peu l'aventure et le destin pour avoir quelque chose à raconter ?
Pas vraiment. Ouais. C'est une bonne question. Pas vraiment. J'essaye probablement dans un coin de ma tête. J'avais quand même l'idée d'en faire un livre. Mais vous voyez, il s'est passé 4 ans, 4 longues années entre le périple et ce livre. Donc je l'avais dans un coin de ma tête, mais j'essaye de ne pas vivre mes aventures seulement pour les écrire, parce que ça c'est truqué un peu, c'est triché.
Non, mais évidemment, on a cette posture-là quand on est un écrivain voyageur comme vous, mais est-ce que malgré soi, malgré cette idée qu'il ne faut pas, bah, ça reste comme, quand même dans un coin de la tête et inconsciemment, bah, voilà, on appuie sur ce bouton-là, on prend plutôt à gauche parce qu'il y a plus de risques d'avoir des choses à raconter.
Peut-être, mais je crois que c'est... Je procède comme ça dans ma vie entière et pas seulement quand j'ai le projet d'écrire. Mmh. D'ailleurs, je crois que je suis plus un voyageur qui écrit qu'un écrivain voyageur. Moi, je vis les voyages et la rançon de ces voyages, c'est de les coucher sur papier.
La rançon aussi, c'est que c'est compliqué de mener une vie de voyageur peut-être. Mais ça, on en parle dans un instant.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, le retour, toujours avec Philibert Hume pour Roman Fleuve aux éditions des Équateurs. L'histoire incroyable de trois jeunes garçons, des trentenaires, à peine 30 ans, qui décident d'entreprendre un périple, c'est de descendre la Seine depuis Paris jusqu'au Havre. Pour ça, ils se procurent un canoë acheté sur le Bon Coin, canoë qui aurait appartenu à Véronique Sanson. Ils y installent une tringle à rideaux et... comment on appelle ça, un rideau de douche pour faire la voile. Et ensuite, bah, vogue la galère, effectivement, et on suit ce parcours. L'intérêt quand même de ces voyages, c'est que c'est une mine pour les rencontres et les aventures. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on rencontre soit une sociologie, soit des personnages. Mais ça commence avec une vedette, c'est Sylvain Tesson, que vous passez voir à Chatou, où il habite.
Oui, ouais, Sylvain Tesson, qui est un ami de longue date, ayant appris le projet de cette expédition, nous a invités à déjeuner quand nous arriverions à Chatou. Il nous attendait sur le débarcadère et il s'était surtout proposé de nous ravitailler. Et il a effectivement tenu promesse, mais il a rempli un panier d'osier de toutes les denrées les moins transportables au monde. Et il y avait une bourriche d'huîtres, une caisse de vin, un flan et du maroilles. Donc toutes ces choses qui voyagent assez mal. Et voilà. Et d'ailleurs, c'était un parrainage heureux puisque Sylvain Tesson, entre autres qualités, est doté, me semble-t-il, d'autodérision, d'une certaine autodérision. Et c'est ça. L'idée, c'était évidemment de contrecarrer l'esprit de sérieux. Vous parliez de sociologie à l'instant. Moi, je me méfie de ces grands mots. Effectivement, on rencontre des gens, mais si je suis sociologue, c'est vraiment un sociologue en chaussettes, quoi. Je suis un Ulysse de sous-préfecture avec mes compagnons et on rencontre des gens. Effectivement, on rencontre des gens formidables. Ce qu'on appelle le peuple des berges, ce que Robert Giraud appelait le peuple des berges, c'est les gens qui habitent au bord du fleuve, sur les rives du fleuve. Et je crois d'ailleurs qu'on n'habite pas les rives d'un fleuve tout à fait par hasard. Il faut une certaine forme d'esprit. Et on a rencontré un certain nombre de personnages curieux.
Mais vous voyez, vous le faites malgré vous. Vous êtes déjà en train de dessiner la sociologie ou les sociotypes des gens qui habitent au bord d'un fleuve. Et bon, évidemment, ce n'est pas une démarche scientifique, mais c'est aussi ce à quoi servent les romans, s'ils servent à quelque chose. Il y a aussi ce dessin, malgré l'auteur, de ces rencontres, de cette vision du monde, quoi.
Oui, c'est possible. Enfin, j'ai remarqué dans nos rencontres qu'elles, je ne sais pas si elles sont représentatives, mais oui. Dans nos rencontres, je me suis aperçu qu'on croisait beaucoup de gens curieux. Je me souviens d'ailleurs que Jean Tellet, qui nous a quittés, disait qu'il était un aimant à dingue. Il avait remarqué ça au cours de sa carrière. Partout où il allait, il se rendait au milieu d'un village, un village désert, puis arrivaient des gens bizarres qui venaient lui parler. Et je crois que je suis aussi atteint de cette maladie-là. Je suis un aimant à dingue, le mot est peut-être un peu fort, mais disons à gens bizarres, à personnages originaux. D'ailleurs, l'originalité, c'est quoi ? C'est la véritable originalité. Le véritable original, c'est celui qui voudrait être comme tout le monde, qui voudrait faire comme tout le monde, mais qui n'y arrive pas du tout. Et c'est ça. Là, nous, on a croisé des gens, mais je n'aurais même pas osé les inventer. Je pense à Venceslas, le patron d'une guinguette sur l'île de Platé, ou à Bertrand, qui est responsable de la passe à poissons du barrage de Pose, dont le métier est de compter les saumons qui remontent la Seine. Enfin, ces gens-là, un auteur de fiction n'aurait pas osé les mettre dans un livre.
Oui, et puis il y a aussi une forme d'attention sélective, j'imagine, surtout quand on a votre esprit. C'est-à-dire que peut-être vous avez croisé aussi des gens qui n'avaient pas grand-chose à dire, qui étaient des gens sympathiques sans plus, et puis qui ne faisaient pas une bonne histoire d'une certaine manière, et vous les avez un peu effacés de votre mémoire.
C'est possible.
Bon, vous retenez ce qui est saillant.
Mais c'est possible, mais c'est peut-être un réflexe d'écrivain ou de reporter. Mais c'est possible qu'on voit chacun le monde avec des œillères. C'est ce qui nous permet d'être heureux dans les interstices. Le monde est assez dur, assez âpre, et on est obligé de le voir avec un certain biais.
Alors, on dit que c'est un récit, que vous l'avez vécu, certes, mais c'est aussi un roman. Donc, vous inventez un peu, j'imagine.
Non, je n'invente rien. Non, en toute honnêteté, je n'invente rien. Par exemple, ce canot, nous dit le vendeur, aurait appartenu à Véronique Sanson. Quelques jours plus, donc on se vante partout.
Ça c'est vrai.
Ça c'est tout à fait vrai.
D'accord.
Et on se vante de voguer sur le canot de Véronique Sanson. Et un soir, nous campons nous bivouaquons sur une île. Et là, on rencontre un type et on se vante également. Et il nous dit, mais Véronique Sanson, la chanteuse? On lui dit oui, elle-même. Il nous dit, mais savez-vous qu'elle habite 500 mètres plus loin, en bord de Seine? Tout ça est vrai. Tout ça n'est pas vraisemblable. Ah, et oui. Pourtant, tout ça est vrai. Et nous sommes vraiment allés, pagayés à l'épaule, sonner chez Véronique Sanson. qui ne nous a pas ouvert.
En fait, j'aurais pas dû poser la question. J'aimais bien aussi que ce soit inventé. Enfin, peu importe. De toute façon, tout est vrai. Ah, parce
libre
que
à
je
vous
de me
croire ou non, mais, moi, je vous certifie que c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que je m'encombre de coéquipiers. C'est pour qu'ils vous assurent et pour qu'ils soient témoins que tout ça est rigoureusement authentique.
Est-ce que vous avez des retours des gens qui vous ont lu? Quels sont-ils? Parce qu'il est sorti au fin août. Je vous demande ça parce que moi, quand je l'ai lu au début de l'été. Et en fait, j'ai vraiment eu envie de refaire le trajet avec des copains. Je ne sais pas si je le ferai vraiment ou pas, mais ça donne cette envie-là. Est-ce que vous avez ces retours-là ou est-ce que vous en avez eu d'autres?
Oui, j'ai eu des retours de... Alors, les gens qu'on a rencontrés précisément... j'essaye de pas trop les embêter, peut-être par pudeur, mais j'essaye de pas trop les embêter, leur envoyer le livre et leur dire alors, ils sont des personnages, ils sont couchés sur papier, ils sont fixés comme dans un album photo, et j'aime cette idée qu'ils le savent ou ne le savent pas, ils le découvriront peut-être un jour. J'aime cette idée. Puis il y a toujours ce risque. On le disait, on voit les gens avec un certain regard, surtout quand on est voyageur, où la rencontre est toujours fugace. C'est terrible. Le voyageur solitaire est un diable. Le voyageur est un diable. Il passe son temps à demander de l'aide, à demander son chemin, à demander de un verre d'eau. On l'héberge, on l'accueille, on le renseigne, et puis le lendemain, il part comme un voleur. Le voyageur est un voleur. Et toutes ces rencontres.
Voyageur pauvre surtout.
Le voyageur pauvre, oui, mais ce qui est mon cas, puisque là, le budget alloué à cette expédition était relativement faible.
Tout est passé dans le canoë, de toute façon.
Tout est passé, nos 250 euros sont passés dans le canoë.
Non, oui. Mais moi, je parlais des retours de lecteurs qui n'avaient rien à voir avec l'aventure, quoi, qui vivent à Vesoul, qui ne sont pas sur la Seine, et puis qui ont lu le livre. Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Bizarrement, ils ne parlent pas trop de la Seine ou des rencontres. Ils parlent plutôt du voyage, de ce que ce livre tend à leur rappeler, enfin, c'est peut-être un peu présomptueux de ma part, mais que l'aventure est au pied de chez soi, qu'il suffit que tout est dans la tête, quoi. Qu'il suffit de claquer la porte et roule ma poule. En fait, là, on a eu besoin d'une coque, d'une tringle, d'un rideau et puis de copains. C'est l'amitié, c'est l'élan vital, l'allan qui nous meut du verbe mouvoir.
Ça crée des déceptions aussi, parce que ce n'est pas votre premier livre où vous racontez votre voyage, pas du tout. Et par exemple, des gens qui habitent au bord de la Seine pourraient vous dire « Pourquoi vous n'êtes pas passé par chez moi? Vous ne citez pas mon village, etc. » Moi, je me rappelle votre tour de France. Vous ne passez pas très loin de là où j'ai grandi, dans les Mauges, entre Nantes et Angers. Mais vous ne passez pas par mon village et ça m'a un peu embêté, ça m'a un peu déçu. Je me suis dit non, c'est dommage, il y avait plein de choses à raconter.
Ouais, ça c'est des retours fréquents. Les reporters reçoivent souvent ces courriers-là. Effectivement, les lecteurs reprochent à l'auteur de ne pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà.
C'est ça.
Et oui, on peut pas tout raconter, c'est sélectif. C'est un roman fleuve assez court, hein. Je crois que c'est le plus court roman fleuve de l'histoire des romans fleuves. Mais quand même 270 pages, je voulais pas embêter le lecteur en transformant ce livre en guide vert.
On fait une pause, on se ravitaille et on reprend le canoë dans un instant.
La voix est livre.
Nicolas Caro.
La Voix est livre continue toujours avec Philibert Hume pour Roman Fleuve aux Équateurs. L'aventure incroyable de trois jeunes gens qui entreprennent de descendre la Seine de Paris jusqu'au Havre dans un canoë qui aurait appartenu à Véronique Sanson. S'ensuit tout un tas d'aventures et de rencontres et puis parfois de peur, enfin de grosses frayeurs. Est-ce que vous avez eu peur des vagues, des courants? Est-ce que vous avez réellement... vous avez eu peur pour vous, pour
oui.
Votre vie.
Oui, c'est un pour ma vie.
Si
non,
c'est la Seine, et bon.
Mais c'est un canoë de place. C'est un canoë de rivière. Effectivement, quand on arrive après Rouen, on rencontre des pétroliers, des bateaux immenses de 300-400 mètres avec des grues sur leurs ponts. Et quand on passe sous le pont de Tocqueville, puis celui de Normandie, on se dit que c'est un peu notre présence est un peu incongrue dans cet estuaire. Et on était un peu une coquille de noix, au milieu des super tankers. Peur pour ma vie, non, parce que je ne connais pas la peur.
Magnifique. En revanche, vous connaissez bien le 19e et les livres de cette époque-là, et vos chapitres, en fait, sont fabriqués à l'ancienne, c'est-à-dire que ça commence par de l'absolue nécessité de se procurer un canot pour canoter, négocier le prix d'un canot, Slim Batteux et Véronique Sanson. Ce sont des sortes de petits résumés par tiret avant chaque chapitre, ce qui se faisait beaucoup chez Dumas et d'autres.
Oui, je trouve que c'est un procédé littéraire désuet, mais donc très charmant, qui consiste à précéder chaque chapitre de 8 ou 9 titres qui tue absolument tout suspense.
Mais oui, ça divulgâche à mort.
Voilà, moi ça me plaisait bien d'aller à rebours de l'époque. Je suis pas très moderne comme garçon, je vous le confesse. Et c'est peut-être mon prénom d'ailleurs, Philibert, qui joue là-dedans. C'est d'ailleurs un prénom qui m'a été assigné à la naissance sans aucune consultation préalable. J'ai pas du tout donné mon accord. Et d'ailleurs j'ai vu que 2 Philibert sur 3, en France on n'est pas très nombreux, mais 2 Philibert sur 3, je crois que l'âge moyen est de 69 ans, donc 2 Philibert sur 3, on souffre de la prostate, et voilà, les Philibert ne sont pas vraiment contemporains.
Mais vous surjouez ce côté désuet ?
Mais non, je surjoue pas, moi je vais vers ce qui m'amuse.
Vous n'avez pas 30 ans ?
Non, je viens d'avoir 31 ans, si. Mais je vais vers ce qui m'amuse. Non, mais je ne me pose pas les questions de savoir si je suis de mon temps ou j'ai aucun discours là-dessus. Je m'amuse et je trouve qu'il y a dans ces livres de la fin du 19e, il y a chez ces auteurs anglais notamment, une forme de légèreté, de fantaisie, d'ironie douce et légère, qui n'est pas le cynisme d'aujourd'hui, qui moi me plaît, qui a complètement... enfin, la littérature a désinvesti le champ de l'humour, et je trouve que c'est dommage. Je ne suis pas le seul, hein, on est un certain nombre à labourer la terre, mais enfin, c'est de la glaise, quoi.
Et vous avez d'ailleurs un téléphone à peu près des années 90 que vous avez posé sur la table.
Exactement, un Alcatel.
Pas du tout un smartphone.
Un Alcatel de l'avant-dernière génération. Non, pas très smart.
Mais c'est dommage parce qu'il y a des Google Maps et tout ça. Pour un voyageur, c'est pratique.
Oui, c'est pratique, mais en fait, moi, je n'aime pas ce qui est pratique. Je suis pour le voyage désorganisé, je suis pour le voyage qui tourne mal. Quand tout se passe trop bien, quand tout est trop écrit à l'avance, ça m'amuse moins. Je cherche l'aventure plus que le voyage.
Alors, juste un mot encore sur ces têtes de chapitre, c'est un exercice en soi, parce qu'elles sont très drôles. Prise de pouvoir et distribution des assignations, les aventuriers et leur maman, homme libre toujours, tu chériras ta mère, baptiser son embarcation, Sainte Lydie et le concept de ventilation narrative. Bon, voilà, il y en a plein, il y a au moins une trentaine de chapitres, mais ça vous a demandé du travail, ça aussi, c'est un exercice, quoi.
Ouais, mais c'était pas le plus difficile et ça m'a amusé beaucoup de titrer ces chapitres.
Et vous avez titré après les avoir écrits ?
Oui, ce sont des formes de résumés. En fait, j'ai voulu ce livre comme une sorte d'objet un peu antidaté. La couverture est rigide, comme les livres d'autrefois. Il y a donc ces titres. Il y a aussi des gravures. Un ami et non moins talentueux, Arthur Capmas, a réalisé des gravures au burin, des gravures à l'ancienne qui émaillent ce livre-là. Et je l'ai voulu comme un objet hors du temps, quoi, hors de l'époque, qui n'obéit à aucun canon. Je ne me suis pas posé les questions de est-ce que ça fonctionnerait, est-ce que je suis bien dans mon temps. J'ai fait instinctivement, je suis allé là où mon instinct me menait.
Mais justement, la couverture, l'objet livre est aussi très intéressant, la couverture cartonnée, rigide. Pourquoi ce choix ?
Mais je vous dis parce que c'est un hommage au livre d'autrefois, vous savez, avec cette couverture rigide et parfois recouverte de toile. J'avais demandé d'ailleurs à l'éditeur s'il était possible de toiler ce livre et il m'a regardé avec des gros yeux, il m'a dit « Sais-tu qu'on a inventé depuis quelques années le code-barre ?» Le code-barre interdit aujourd'hui la toile sur les livres et c'est bien dommage.
Suave Marie Magnot, tant vont les cruchalots, énième naufrage, la charge des secours, gâchis de fonds publics, collision de pétroliers, faubon et ricochet, expérimentation de la relativité du mouvement. Et puis le dernier chapitre, c'est dernier virage, vérification de la porte opposée, désarmement des toboggans. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte de la cuisine, Philibert Hume, savoir comment vous écrivez ? On a compris que vous n'écriviez pas pendant le voyage, mais là je vois que vous avez un petit carnet posé à côté de votre téléphone des années 90.
Ouais.
Est-ce que vous prenez des notes tout le temps ? Est-ce que vous pouvez toujours prendre des notes ? Ou est-ce qu'il vous faut du silence ? Est-ce que c'est le soir quand tout le monde dort ?
etc. Non, les notes, j'en prends tout le temps. Je ne fais pas vraiment confiance à ma mémoire. Donc, j'en prends tout le temps pour écrire des livres, pour écrire des articles. Là, je prendrai des notes sur vous, sans doute. Et j'en prenais aussi pendant le voyage, pendant cette aventure, ce qui navrait beaucoup mes camarades, puisque pendant qu'on prend des notes, il est difficile de ramer, de pagayer. Alors, je mettais un coup d'aviron, puis j'écrivais 2-3 lignes, et puis je remettais un coup d'aviron. Donc, assez vite, ils m'ont muté à la place de garde-chiourme, puisqu'on était 3, on avait que 2 pagayes. Et donc, moi, j'étais plutôt celui qui donnait la cadence ou qui faisait la lecture. Quant au processus d'écriture, j'ai ces notes. Alors, je remplis donc des carnets, des quantités de carnets.
Des petits carnets Clairefontaine, c'est pas du Moleskine un
non,
peu classe. Hein.
Non,
c'est,
non.
C'est du très joli Clairefontaine, c'est du tout terrain, mais à spirale.
C'est du tout terrain à spirale. Et je leur mets un petit numéro quand je les ai terminés. Là, on doit être au 60e. Et puis, je les range dans une petite boîte et je ne les relis jamais.
Oui.
J'ai remarqué ça. Je peux remplir 2 carnets au moment d'écrire le livre. Impossible de l'ouvrir.
Mais le fait de l'écrire, ça s'est imprimé. Quoi.
Voilà, ça l'imprime. Et puis, je crois que ça fait partie du travail de tamis. Et écrire, faire le récit d'un voyage, c'est voilà, se soumettre à cette expérience de tamis, comme vous le disiez. On va raconter certaines choses et pas d'autres. Et ce travail, il passe par la prise de notes et il passe aussi par le fait de ne pas relire ces notes.
Et alors l'écriture en elle-même, c'est sur ordinateur ?
Oui, alors j'écris bien souvent les débuts de chapitres avec un stylo bic sur une feuille de papier. Et puis quand j'ai quelques idées, quand ça commence à prendre forme, là je mets tout sur un ordinateur. Et là, je me sers du traitement de texte qui est très pratique pour arranger les idées, pour les mettre en forme et puisque c'est, vous parlez de petite cuisine, c'est tout à fait ça. On se fait parfois de grandes idées sur le métier d'écrivain, mais c'est pas beau à voir. Mais, je peux vous le dire, ça ressemble plutôt au Magnifique, à Belmondo dans le Magnifique. On est tout seul derrière sa machine ou son ordinateur.
En pantoufles, en peignoir, et on attend
les coups de fil de l'éditeur qui se morfond, et puis quand on arrive à la page 300, on met les mots fins et puis on envoie la sauce.
Et ça donne un roman fleuve aux Équateurs. C'est fluide, c'est drôle, c'est profond, c'est très très bien écrit. Allez-y, embarquez. Merci beaucoup Philibert Hume.
Merci Monsieur Caro.
Dans un instant, visite de bibliothèque, nous partons chez Marie-Claude Pietragala.
La voix est livre.
Nicolas Caro.
Il est l'heure de visiter une bibliothèque, celle de Marie-Claude Pietragala cette semaine. Elle présente avec Julien Derouault au Théâtre de la Madeleine 2 spectacles en alternance, La Leçon, nouvelle création du Théâtre du Corps, et Le Seul en scène de Marie-Claude Pietragala. J'étais curieux de savoir de quel livre elle se chauffe.
Bonjour Marie-Claude Pietragala.
Bonjour.
Merci de nous recevoir, pas chez vous.
Oui.
Parce que donc, c'est une séquence où je vais chez les gens, dans leur salon, dans leur intimité, et encore plus dans leur intimité, dans leur livre,
oui,
pour fouiller avec eux dedans. Mais il y a des travaux, d'après ce que j'ai compris, chez
oui,
vous. Mais en fait, c'est encore mieux parce que là, on est où ?
Oui. On est au Théâtre du Corps. On est dans ma compagnie, là où tout se fabrique, là où tous les projets sont créés, sont d'abord imaginés et après créés avec la compagnie, avec mes danseurs. Donc, vous êtes dans un deuxième chez moi. Donc, voilà, bienvenue.
Et alors, c'est drôle parce qu'on est passé devant la salle de danse. Mmh. Et bon, en infrastructure, c'est pas grand-chose. Une salle de danse, c'est un parquet et puis des bars et puis des miroirs. Bon, mais c'est marrant, ça donne envie de danser quand même. Comment on explique ça ?
Oui, parce que là, c'est pas qu'une salle de danse. C'est vraiment la vie d'une compagnie. Il y a effectivement les studios de répétition, mais il y a aussi tout ce que les artistes, depuis des années, ont déposé aussi. Vous savez, l'indicible de l'être humain qui fait que effectivement. Vous avez d'un côté l'artistique, là on est plutôt dans l'administration, et tous ces hommes et ces femmes qui ont construit, puisque le Théâtre du Corps que j'ai fondé avec Julien Derouault à 18 ans, donc voilà, il s'est passé des choses. Donc c'est normal que vous ressentiez aussi des vibrations, des ondes bénéfiques, j'espère, positives.
Alors je suis content parce que vous m'avez ramené quand même de votre bibliothèque une vingtaine de livres précieux pour vous. Mmh. Comment vous les avez choisis ?
Alors, je les ai choisis aussi par rapport, alors certains non et d'autres par rapport à mon travail. Parce que avec Julien Dereau, quand on a créé le Théâtre du Corps, on a trouvé une sorte de, comment je pourrais dire, de chemin de traverse en essayant de, nous on aime bien la pluridisciplinarité et les arts qui se mélangent. Et le théâtre du corps porte bien son nom puisque on a depuis plusieurs années travaillé sur l'alchimie, l'alliance, la fusion, la passerelle qu'il y a entre le théâtre et la danse. Et grâce à tous ces livres que moi j'ai découverts et j'ai vu naître des projets, comme par exemple La Leçon
d'Eugène Ionesco.
Alors, il s'avère que c'est mon actualité là, puisqu'on on présente cette nouvelle création au Théâtre de la Madeleine jusqu'au 4 décembre. Mais Ionesco, je l'ai découvert à travers les chaises. Et puis après, il m'a pu quitter parce qu'il y a eu les chaises, il y a eu Rhinocéros, j'ai lu notes et contre-notes, tout ce que je pouvais savoir de Ionesco. J'ai rencontré sa fille, Marie-France Ionesco, qui est une femme charmante, exquise, qui a été un puits d'informations et vraiment qui m'a fait comprendre l'œuvre de son père. Et donc voilà, Ionesco, je l'ai choisi parce que, alors vous avez vu, il est un peu abîmé, hein, mon livre. Je ne sais pas si c'est sur celui-là où il y a des annotations, il y a des choses, parce que là, c'est vraiment un livre de travail, parce que j'aime pas trop écrire sur les livres, mais en général...
Vous faites partie de ces fétichistes qui ne veulent pas toucher, stabilotent pas, quoi.
Alors, en général, j'en achète deux. C'est-à-dire, j'en achète un pour pouvoir stabiloter dessus.
Karl Lagerfeld voilà. Qui faisait ça aussi.
Et un autre pour me dire, bon, ben voilà, j'ai pas touché, il est vierge. Et
j'ai rien
voilà,
fait.
Voilà, j'ai rien fait. Mais voilà, Ionesco, c'est, en l'occurrence, La Leçon, c'est ce professeur qui donne une leçon particulière à une élève et qui va user de son pouvoir à l'extrême jusqu'à en avoir ses pulsions après... de mort, et bon, sans raconter la fin, mais tout ce dérèglement du langage que Ionesco, dont Ionesco nous parle, et aussi de ces... On ne sait pas, au début, quand on lit la leçon, on ne sait pas trop où on est, on ne voit pas trop où ce professeur va en venir, et puis en fin de compte, on s'aperçoit que c'est l'utilisation de ce pouvoir, de cette intelligence qui va être au service de complètement autre chose. Mais et qui va finir par noyer son élève de son savoir, qui se dérègle d'ailleurs, parce qu'à un moment, on se dit mais qu'est-ce que le professeur raconte ?
C'est amusant, parce que pendant que vous parliez, je regardais les autres livres, et ils ont tous des rythmes très particuliers. Et en fait, il n'y a pas de roman particulièrement sur la danse. Il y a un livre, mais oui. Pas de roman. Je ne sais pas d'ailleurs quel grand roman sur la danse, peu importe. Mais il y a André Chédide qui s'appelle Rythme, qui est en fait l'essence de la poésie. Quoi. C'est le rythme, comme dans la danse, finalement. Mais pourquoi André Chédide ?
Alors, pourquoi André Chédide ? Encore un auteur qui m'a inspirée, puisque dans un des spectacles qui était un seul en scène, la Tentation d'Ève, et j'étais inspirée par la poésie d'André Chédide. Tout le spectacle est jalonné de sa poésie et de sa sensibilité, de sa délicatesse. Voilà, c'est pour moi une femme avec un talent, mais en même temps, je la connais pas. J'ai pas eu cette chance-là, mais à travers sa poésie, je trouve que c'est quelqu'un d'élégant, d'une grande délicatesse.
Vous respectez les livres, mais vous les cornez quand ça vous plaît. Et là, il y a quelques poèmes cornés. Le premier, c'est « Ce corps, comme par hasard ».
« Ce corps que tu habites, ces jours qui t'ont bâti, cette vie qui t'a conduit, ces peines qui t'ont mûri, ce passé qui t'a fait ou bien qui t'a défait, ce toit qui s'enfonce dans la souche des années. » C'est magnifique. Et c'est vrai que la poésie, moi j'aime beaucoup travailler sur la, sur la poésie. On a travaillé aussi sur la poésie d'Aragon, je ne sais pas si je l'ai... Voilà, oui, les poètes. Il y a une musicalité étonnante pour la danse, mais c'est d'une grande difficulté. On parlait du théâtre tout à l'heure, mais pour un comédien, je trouve que c'est... La poésie, c'est encore autre chose.
Oh là là, le Aragon, il y a du bic partout, il y a des pages arrachées, Aragon, il a vécu.
Le Aragon, il a vécu. D'ailleurs, j'ai choisi les jeunes gens. Et effectivement, je vais vous en lire un extrait parce que... La nuit pour le troisième est la liberté des sanglots, la fin de toute contenance et le visage à son aise au malheur abandonné. Ce grand désordre de soi-même et personne à qui de rien rendre compte. Je peux me coucher sur la terre et la mordre et crier « Pardon ». Agiter les bras, courir, tout à coup me jeter à genoux sans honte. La nuit, c'est le droit au malheur, le droit d'être faible et nu dans les draps, comme un immense linceul qui couvre votre vie et votre tête. Dans la veille ou le rêve, enfin le droit de ne plus faire semblant.
Magnifique.
Là, on part, c'est une épopée, c'est magnifique. Et c'est. Voilà, Aragon aussi, ça a été le plaisir de pouvoir travailler sur un spectacle qui s'appelait Être ou paraître, un seul en scène, interprété par Julien Deroux. Il y a un très joli texte qui s'appelle. Discours, qui est un testament à la jeunesse et qui dit le temps brûle. Et voilà, on voit l'urgence de la vie et cette passation à la jeune génération. Et moi qui suis très sensible justement à la transmission, voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup.
Qu'est-ce que vous a transmis le journal de Nijinsky ? J'ai dans les mains votre exemplaire folio jauni par le temps qui brûle,
oui,
corné aussi dans tous les sens, en bas, en haut. Vous pouvez nous présenter ?
Nijinsky, c'est quand on est danseur, on ne peut pas ne pas connaître Vaslav Nijinsky, ce clown de Dieu. Comme l'avait appelé Béjart, c'est un artiste, c'est la légende de la danse. Donc cet artiste qui, à un moment de sa vie, a cet accident et sombre dans la folie, si on peut dire, mais bon, dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Grand interprète, grand chorégraphe, puisqu'on doit le premier sacre du printemps à Nijinsky. Et puis voilà, tout au long de son journal, y a des choses où on sent qu'il s'évade dans un réel irréel. Et puis il y a des choses magnifiques sur la danse, sur l'écriture chorégraphique, sur le rythme.
Cet exemplaire, il est jauni et tout, il a bien vécu aussi. Est-ce que vous l'avez chiné ou est-ce qu'on vous l'a offert il y a longtemps ?
On me l'a offert, mais ça fait bien une trentaine d'années que je l'ai, peut-être même plus, même, je compte plus les années, mais voilà, tout danseur doit avoir le journal de Nijinsky, et pas que les danseurs d'ailleurs, hein, parce que c'est à travers ce journal qui sont des notes qu'il a laissées. D'anecdotes, de souvenirs, de réflexions un peu philosophiques sur son métier. C'est un pan de l'histoire de la danse, à lui tout seul.
Merci beaucoup, Marie-Claude Pietragala. Merci.
Merci. Au revoir.
Et je rappelle, au Théâtre de la Madeleine, Marie-Claude Pietragala et Julien Deroux présentent deux spectacles en alternance, La Leçon et le seul en scène de Marie-Claude Pietragala, La Femme qui danse. Dans un instant, encore des livres, on retrouve les chroniqueurs de l'émission. A tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Dernier chapitre, épilogue de La Voix est libre avec Sébastien Bordenave. Pour la bande dessinée, Clémence Pouletti, journaliste littéraire, et notre libraire de la semaine, l'immense Sandrine Babu, librairie L'Instant dans le 15e arrondissement de Paris. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Nicolas.
On commence avec vous, Sandrine. Bah tiens, c'est un roman jeunesse, en attendant le retour d'Héloïse.
Exactement, je vais essayer de remplacer Héloïse, mais alors là, c'est la tâche compliquée quand même. Hein. Donc, je suis venue avec un livre de Marie Pavlenko qui s'appelle « Et le désert disparaîtra ». Donc là, c'est sorti en poche, et j'ai lu, mais c'était sorti chez Flammarion. Donc, c'est un roman alors, quand même plutôt ado, hein, pas avant 12 ans.
Ça va aussi.
Voilà, on est sur un livre, on va dire, un conte écologique, mais bourré de suspense. Ce qui en fait un livre extrêmement bien écrit et touchant. Et j'avais même versé une petite larme à la fin.
Oh.
Eh oui.
La fin est triste, c'est ça?
Pas forcément. Pas forcément, c'est ça qui est fort.
Il ne faut
ça
rien du tout gâcher. Beau.
Donc, on est dans une civilisation où on a peut-être un peu abusé des ressources naturelles.
Cela dit, la fin est dans le titre. Hein, et le désert disparaîtra.
Ah oui, mais c'est un titre un peu à double,
d'accord,
signification. Pardon, voilà. Donc, effectivement, on vit dans le désert avec ces tribus nomades. Et dans ces tribus, il y a une jeune fille qui a 12 ans qui veut faire comme les hommes. Parce que, alors, évidemment, là, on a perdu un peu les ressources naturelles. On vit dans le désert, on n'a plus d'électricité, mais les rapports hommes-femmes n'ont pas beaucoup changé.
C'est éternel.
Et donc, cette jeune fille veut partir comme les hommes à la recherche des ressources rares, qui est le bois. Le bois est devenu la ressource comme de l'or, en fait. Ils vont vendre ce bois dans les villes pour acquérir de l'eau et de l'oxygène, parce que sinon, ils ne peuvent pas vivre. Mais bon, ça se passe quand même pas trop mal. Donc, elle décide de suivre les hommes à la chasse. Elle se perd et tombe dans un trou. Et là, on se demande bien ce qui va se passer. Oui. Elle tombe dans un trou. Il y a un immense arbre dans ce trou. Elle ne sait pas ce qu'est un arbre. Elle n'a jamais vu en vrai. Oui. Elle n'a jamais vu d'animaux. Elle n'a jamais vu de pluie. Elle n'a jamais vu de mare.
On est loin. Mais...
Et en fait, on va découvrir avec elle toutes ces ressources naturelles. Et elle va commencer à comprendre qu'il y a une autre façon de vivre possible.
Wow.
Et c'est comme ça que ça va s'annoncer. On va la voir. On va voir ses ressources de nourriture et d'eau s'amenuiser. Voilà, donc il se passe plein de choses, même si c'est dans un trou toute seule. Je ne dévoile pas la fin. Il y a aussi une ancienne qui, elle, porte un peu la mémoire de ce qui se passait avant. Et cette jeune fille va apporter un changement.
Et c'est que pour les ados?
Ah non, pour les adultes aussi, complètement.
Ouais.
Complètement.
Ça, ouais.
Tiens, regardez la magie de Boris Paczynski, la musique de Mad Max.
Mais oui, parce que moi, je pense à Mad Max pendant tout le long.
On le dira à Marie Pavlenko. Oui.
On peut le lire si on est adulte. Hein.
Absolument.
D'accord.
Absolument. Ado, adulte, voilà, peut-être pas en dessous de 10 ans, mais pourquoi pas aussi.
Marie Pavlenko et le désert disparaîtra chez J'ai lu. Merci beaucoup Sandrine Babu. Clémence Pouletti.
Oui, bonjour.
C'est la même idée?
Pas du tout.
Roman dystopique, non?
Alors là, pas du tout. Non, non, il s'agit du troisième roman de Joachim Schnerf, publié chez Grasset. Il s'appelle Le cabaret des mémoires. Alors, il est estampillé roman. Je me suis demandé s'il n'était pas un petit peu autobiographique, s'il s'agissait pas un petit peu d'un récit.
C'est courant.
Alors, il s'agit d'un récit, de trois récits en vérité, de trois histoires. D'abord, Joachim, il attend son premier enfant. Sa femme, Léna, est à la maternité et il passe sa dernière nuit tout seul chez lui. Et il est empreint d'une forme de nostalgie immense. Alors, il le dit plusieurs fois, il est extrêmement névrosé, angoissé. C'est un homme comme on les aime, hein, un homme très moderne.
C'est la fête des hommes aujourd'hui.
Et alors, notre personnage, notre narrateur qui s'appelle Samuel, pense à sa femme Léna, toute seule à la maternité, à son fils, dont on ne sait pas le prénom. Et puis, il pense à ce voyage qu'il a fait, ce voyage un peu imaginaire qu'il a fait avec son cousin Michael et sa sœur Tania, tous les trois. Lorsqu'ils étaient adolescents, ils sont partis à la recherche de leur grand-tante Rosa. Rosa qui était la dernière rescapée de Auschwitz. Et qui a travaillé dans un cabaret, et qui travaillait dans ce cabaret, a travaillé sur la mémoire de ce génocide. Il est complètement obsédé par Rosa. Et lors de cette nuit, qui est la dernière nuit de célibataire de papa, de non-papa finalement, eh bien, il va penser à Rosa. Il va penser à Rosa, il va repenser à ce voyage, il va penser à ses grands-parents qui lui disaient beaucoup de choses sur Rosa. Ou non. Il va également nous dire à quel point le silence est effrayant, le silence peut faire du mal. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas un roman drôle.
Bon,
moi, j'aime
obligé,
bien.
Hein.
Ce n'est pas un roman qui fait sourire, mais c'est un roman d'une beauté assez extraordinaire. Et j'utilise extraordinaire parce qu'il nous envoie ailleurs tout en nous en faisant rester dans la réalité. Et ça, j'aime bien. Parce qu'à un moment, on se demande s'il est au Texas ou s'il est vraiment dans les Vosges. Et ça...
Ouais. Et moi, je l'ai lu aussi, et c'est un fabuleux roman sur la transmission.
Sur la transmission,
sur le pouvoir des récits.
Oui.
Et forcément, voilà, on aime les livres qui parlent du pouvoir des récits.
Et exactement.
C'est drôle parce qu'on ne le voit pas à la radio, mais elles ont toutes les deux, en parlant, un sourire de « Ah, c'était beau
». Oui, parce que c'est vrai que c'est très beau. On en ressort un peu chamboulé. Et il réussit, Joachim Schnerf, à nous donner envie de nous pencher sur notre histoire et à nous poser des questions sur est-ce que finalement, oui, le silence ne tue pas. Il y a une phrase magnifique. Et pour terminer, je voulais vous lire quand même, il a choisi un très très bel...
Corné de partout, ce livre.
Oui, il est bien corné de partout. Oui, alors je sais qu'il y a les anti... Bon, alors, il y a les anticornés, il y a les pour. Bon, je suis pour, et puis il y a des petits passages de crin-papier. Bon, alors, je voulais vous lire. Il a cité en début livre, en épigraphe, John Kalman Stevenson, que j'aime beaucoup. Où commence la vie et où cesse la mort, ailleurs qu'en un baiser. N'est-ce pas joli?
Parfait.
Le N'est-ce pas beau?
Cabaret des mémoires.
Le cabaret des mémoires.
Chez Grasset, l'auteur, oui.
Joachim Schnerf.
Merci beaucoup Clémence Pouletti. On termine avec Sébastien Bordenave.
Et ben aujourd'hui, un manga immense, immense comme l'univers, et ça tombe bien car il est question d'espace. Ça s'appelle Planète au pluriel et c'est dessiné par Makoto Yukimura, un mangaka japonais, pléonasme. Makoto a commencé...
Ça existe, le mangaka français.
Et forcément japonais.
Ah, d'accord.
Quand on dit mangaka.
Ah, d'accord, voilà.
Ok, d'accord.
Makoto a commencé à dessiner cette histoire en 1999 sous la forme d'une série qu'on pouvait retrouver toutes les semaines dans un hebdo. Bah, deuxième pléonasme. Il a fini l'histoire en 2004. Le tout est ressorti en plusieurs volumes au Japon. Et cette année, bah, pareil, mais chez nous, en France, ça y est. L'histoire se déroule en 2075. Les humains ont fini d'exploiter toutes les ressources de la Terre. Mais pas de souci, on vient d'ouvrir une colonie minière sur la Lune. Et on prévoit de le faire bientôt sur Jupiter. La BD Planète raconte la vie de Yuri, Fi et Hachimaki, leur job éboueur, mais de l'espace. Ils parcourent l'univers à bord du Toy Box, un vaisseau chargé de s'occuper des déchets. Et ça, Hachimaki, bah, il ne le vit pas très bien. Il préférait être un vrai astronaute comme son père. Yuri, lui, est russe et il a perdu sa femme dans un accident de navette spatiale. Plus ou moins secrètement, il cherche désespérément sa trace. Et c'est ça, tout le sel de la BD. On est plongé dans la vertigineuse immensité galactique, mais aussi dans les petites contrariétés banalement humaine. La BD est d'autant plus géniale, Nicolas, qu'à la fin, eh ben, y a un mini-dossier sur les débris spatiaux. Où on en est vraiment aujourd'hui? Eh ben, j'ai appris plein de trucs. Si on rassemble tous les déchets de l'espace qui sont autour de la Terre, eh ben, ça fait une tour Eiffel. Sachez aussi... Bah, c'est pas tant que ça, en fait, on se dit. Ça fait... Eh ben, sauf qu'en fait, ils expliquent aussi qu'il y a 25 000 objets qui se baladent autour de la Terre qui font la taille de notre poing et 135 millions qui font 1 mm de diamètre. Là, on se dit, bon, bah, ça fait pas tant que ça. Mais en fait, le danger, c'est que tout ça se déplace à 28 500 km/h. Un débris de 1 cm, ça peut tuer un satellite. L'ONU a décidé d'agir, ils ont pris des recommandations, donc en gros, on est obligé de rien, donc super. La France, elle, a pris une loi en 2008 pour limiter les débris spatiaux, donc cocorico, que ceux qui ont peur de lire un manga se lancent. Cette BD est graphiquement tantôt hypnotique, tantôt en forme de coup de poing. Lisez Planète de Makoto Yukimura, c'est chez Panini Manga.
Très beau,
oui, c'est très beau.
Très, très belle couverture pour ces éboueurs de l'espace. Est-ce que vous avez une petite citation?
Oui, une citation de Robert et Raymond Bidochon, dessinée par Binet. Ils sont tous les deux devant un tableau de Claude Monet. Raymond dit « Oh, c'est bizarre de peindre le brouillard ». Son mari répond « Ça évite de faire les détails
». C'est pas bête. On refait un petit tour, Sandrine Babu.
Donc, Et le désert disparaîtra, Marie Pavlenko, en poche chez J'ai lu.
Parfait, Clémence Pouletti.
Le cabaret des mémoires, un roman de Joachim Schnerf, publié chez Grasset.
Merci Clémence, on vous retrouve sur votre chaîne YouTube, il suffit de taper Clémence Pouletti, on
comme
vous trouve.
Comme le poulet,
c'est très rigolo, vous vous déguisez et tout en François Sagan, c'est pour parler de littérature, bien entendu.
Très drôle et profonde chronique.
Merci, c'est gentil.
Merci à tous les trois. Merci beaucoup à Agnès Vaudin pour la préparation de cette émission, Grégory Delpeuch pour la programmation musicale et à la réalisation, Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. Merci Sébastien. Dans un instant, Didier Barbelivien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.